Radio Django. Vivre à Lausanne.
Alors, pour commencer notre série, Gabriel, une série d'entretiens à propos de la démarche participative, on va évoquer aujourd'hui la question des rapports entre l'idée de participation et celle de démocratie directe.
Oui Fabien, en commençant à préparer cette série consacrée aux démarches participatives, on s'est dit qu'il pourrait peut-être être utile de commencer par un petit détour théorique afin de tenter de cerner un peu mieux les enjeux du débat et le contexte dans lequel ils se déroulent. En effet, les processus participatifs sont souvent présentés par leurs promoteurs comme un surplus de démocratie, une occasion pour les gens ordinaires de contribuer directement à la définition d'une politique publique. Est-ce vraiment le cas? Comment comprendre les liens entre cette participation et le projet démocratique? Pour tenter de répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Cholet. Antoine Cholet, vous êtes donc chercheur et enseignant en sciences politiques à l'Université de Lausanne et vous avez publié en 2011 un petit livre intitulé « Défendre la démocratie directe ». Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner une petite définition de ce que vous entendez par démocratie directe et surtout aussi pourquoi il s'agirait de la défendre, comme le titre de votre livre le demande?
Alors il y a deux questions différentes. La définition de la démocratie, en fait, pour une fois, on peut se fier à l'étymologie. C'est-à-dire que la démocratie, ça vient du grec, c'est le kratos du démos, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Les deux termes posent problème, donc je n'entrerai pas dans un long développement, savoir qui forme le peuple, savoir qu'est-ce que c'est que ce pouvoir. Mais partir du principe que la démocratie, c'est quand le peuple, c'est la population, les citoyens, le grand nombre, la multitude a le pouvoir, ça me semble un très bon guide. Ensuite, la démocratie directe en Suisse, on a vu encore ce printemps qu'il y avait toute une série d'attaques visant à la limiter, notamment du patronat. Je pense qu'il faut retrouver les idées qui étaient au départ de la démocratie directe en Suisse au 19e siècle, qui étaient des idées précisément visant à redonner du pouvoir au peuple contre les élites, contre les partis en place, contre les bourgeoisies qui avaient pris le pouvoir tout au long du 19e siècle. Donc je pense que c'est cette idée-là qu'il faut essayer de défendre aujourd'hui.
Parce que défendre, c'est vraiment qu'elle est attaquée. J'ai l'impression qu'une des choses qui était intéressante dans ton livre, c'était d'essayer de mettre à jour une partie des discours antidémocrates qui sont jamais ouvertement antidémocrates, parce que tout le monde se réclame des démocraties. Voilà. Et on voit en fait dans certaines représentations du monde que vraiment le peuple est vu plutôt comme une menace que comme une garantie d'égalité en fait.
Tout à fait. En Suisse particulièrement, il est difficile d'attaquer le référendum et l'initiative frontalement, donc il faut... Les personnes qui critiquent la démocratie directe commencent toujours par dire qu'ils l'apprécient beaucoup. C'est encore le cas dans le rapport d'Avenir Suisse ce printemps. Et donc, ils mettent en place toute une série de stratégies argumentatives pour montrer qu'il faut un peu de démocratie, mais pas trop. Ou, comme le dit le dicton célèbre mais faux, trop de démocratie tue la démocratie. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à un certain point, mais il ne faut pas aller trop loin.
Une autre différence qu'on peut peut-être mentionner par rapport à ce que tu décrivais comme l'essence du projet démocratique, donc le pouvoir du peuple au sens le plus simple qu'on puisse entendre, c'est le fait qu'on vive dans des régimes représentatifs qui sont finalement assez éloignés de ce qu'on pouvait entendre jusqu'à récemment par le terme démocratie. Je ne sais pas si tu peux nous dire quelques mots sur
la représentation,
ce rapport entre représentation et démocratie directe.
C'est quelque chose qui a été rappelé par de nombreux chercheurs depuis quelques dizaines d'années. C'est une idée qui était très connue au 19e siècle, mais qui avait été un petit peu oubliée dans l'après-guerre. Mais Bernard Manin, par exemple, montre bien que le projet du gouvernement représentatif se pense et se construit explicitement contre la démocratie. Lorsqu'on met en place des systèmes électoraux, des partis politiques, des parlements et tout ce qui accompagne le gouvernement représentatif, à la fin du XVIIIe siècle, que ce soit en France ou aux États-Unis, tout ceci se fait contre l'idée d'une démocratie pour toute une série de raisons, et en particulier parce que, pour ne prendre que l'exemple américain, Madison et Hamilton ne pensent pas que le peuple puisse gouverner. Ils ne pensent pas qu'il a les compétences ou les capacités pour gouverner, sans compter qu'il y a l'argument de la taille qui revient fréquemment. Donc en effet, la représentation, et c'est la raison pour laquelle Bernard Manin, par exemple, propose de réutiliser le terme de gouvernement représentatif plutôt que celui de démocratie représentative, qui est, comme il le souligne bien, qui est devenu un pléonasme et qui était un oxymore, c'est-à-dire une contradiction dans les termes. On ne peut pas avoir une démocratie représentative puisque la représentation se construit contre la démocratie.
Alors peut-être venons-en à cette question de la participation qui est quand même le thème qu'on voulait aborder. Dans ce contexte représentatif, de gouvernement représentatif, comment comprendre ces processus participatifs? Est-ce que ce ne serait pas une espèce de propositions qui viseraient à donner un substitut de démocratie directe, alors qu'il existe assez peu, finalement, à part les quelques mécanismes que tu as cités avant, l'initiative, le référendum, mais qui demandent souvent des moyens assez élevés et qui sont à une échelle qui la rend difficilement accessible pour la plupart des gens ordinaires.
Alors, dans le cas de la démocratie représentative, on a le phénomène inverse de ce que décrivait Bernard Manin sur la démocratie représentative. C'est au départ un pléonasme. C'est-à-dire, pour avoir une démocratie au sens fort du terme, le pouvoir du peuple, il faut de la participation, il faut une participation active des citoyens. Et au fur et à mesure des années, spécialement en France, le terme de démocratie représentative, on est venu à signifier quelque chose de tout différent, qui, à mon sens, n'est peut-être pas l'envers de la démocratie, mais en tout cas quelque chose qui est relativement éloigné de procédures démocratiques, à savoir une forme de consultation populaire. Alors, comme le savent bien les historiens de l'Ancien Régime, les personnes qui consultent, ce sont les monarques. Ce sont des personnes qui ont un cabinet autour d'eux, et puis on va tendre l'oreille en leur demandant qu'est-ce qui se passe, est-ce que les paysans sont un peu fâchés, est-ce qu'il faut baisser le prix du pain ou de la farine ou ce genre de choses. Mais la consultation en tant que telle n'est pas une procédure démocratique. La procédure démocratique fondamentale, c'est la décision, c'est la capacité de décider, d'avoir... En tout cas, le dernier mot, c'est ce que dit Rousseau dans le contrat social, et si possible, ce qui est plus compliqué, d'avoir le premier mot également, c'est-à-dire de pouvoir poser les problèmes. Les démarches participatives, généralement, ne donnent ni le premier ni le dernier mot à la population, au peuple, aux citoyens et aux citoyennes, mais en revanche, c'est plutôt une démarche de consultation, une démarche qui vise quelque chose d'autre et qui vise la plupart du temps, et là aussi la situation française est un peu plus claire que la situation suisse, qui vise la légitimation d'un certain nombre de politiques. Alors, je ne prends qu'un seul exemple qui est extrêmement illustratif. En France, il existe une commission nationale du débat public qui organise précisément des débats citoyens qui sont censés être de la démocratie participative sur de grands travaux prévus par l'État. Alors, ces grands travaux, c'est quoi? C'est la construction de centrales nucléaires, c'est la construction de zones pour stocker les déchets nucléaires, ou c'est la construction de lignes TGV. Mais à aucun moment, évidemment, on ne pose la question consistant à savoir s'il faut des centrales nucléaires, s'il faut des lignes TGV, s'il faut réaliser tous ces travaux. Donc là, on voit bien que les processus participatifs, comme ils sont appelés, à tort à mon sens, sont en réalité des processus de légitimation, puisque la légitimation par les élus ne suffit plus.
Mais alors, Antoine Chollet, est-ce qu'il y a pas une... Enfin, quelle est la différence entre un principe consultatif et une votation qui est plus officielle ?
La différence fondamentale tient à la décision, précisément. C'est-à-dire que la votation tranche. En Suisse, en tout cas, ce n'est pas le cas partout ailleurs, mais en Suisse, le résultat de la votation tranche, y compris, il faut le reconnaître, quand le résultat va à l'encontre, y compris d'intérêts relativement importants et de l'opinion des principaux partis. On l'a encore vu, malheureusement, en ce qui me concerne, enfin, ce qui concerne mes opinions politiques, le 9 février de l'année passée. C'est une décision qui a chamboulé absolument toute la politique étrangère de la Suisse, la politique européenne, mais néanmoins, la décision a été prise et il faut s'y plier.
Peut-être qu'une dernière figure, j'aimerais bien qu'on évoque, c'est la question de la figure de l'expert. J'ai l'impression que c'est une figure qu'on nous ressort souvent dans ces démarches participatives, où une bonne partie de ces démarches sont vraiment la diffusion d'un discours expert sur des questions relativement complexes qui dépassent les compétences immédiates de la plupart des participants, et que c'est souvent une espèce de validation forcément qu'on demande aux citoyens, parce que le discours est un discours expert qui est tenu pour un discours de vérité, alors qu'on est en politique et qu'on parle de questions d'opinion, finalement.
Finalement, est-ce que l'expert connaît tout sur tout ?
Non, assurément pas. Mais personne ne le prétendra, même les experts eux-mêmes. Alors, dans les démarches participatives, quand, dans le meilleur des cas, il y a plusieurs experts qui ont des opinions différentes. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en effet, souvent, on a une forme de... une expertise politique une compétence politique d'une certaine manière qui se camoufle sous les traits de l'expertise, avec tous les problèmes que cela pose, puisqu'en effet les questions fondamentales ne sont pas des questions relevant de l'expertise. Là aussi, pour reprendre l'exemple nucléaire, il est tout à fait évident que le citoyen lambda ou même des personnes très formées n'ont strictement aucune compétence dans la construction d'une centrale nucléaire, enfin, n'ont aucune idée de savoir comment il faut les construire. Bon, manifestement, les experts non plus, parce que quand il y a des accidents, ça se passe pas très bien, mais disons qu'ils ont quelques idées pour la faire fonctionner, mais la question fondamentale n'est pas celle-ci, évidemment, elle est celle de savoir s'il faut en construire une, à quel endroit, si oui, etc. etc. Donc cette question de l'expertise est compliquée, et elle est doublée d'un autre problème dans les démarches participatives, c'est que non seulement il y a des experts de la politique qui est considérée, enfin de la politique publique considérée, mais il y a aussi des experts de la participation. Et là, je vous donne simplement une petite anecdote. Loïc Blondiot, qui est un des spécialistes de la démocratie participative en France, la mairie de Paris s'était approchée de lui, en lui disant qu'il fallait organiser un certain nombre de panels citoyens, et avait ajouté, Loïc, il faut que cette décision sorte des panels citoyens. Alors là, il leur a dit quand même, en fait, il ne faut pas me prendre pour un imbécile. Si on fait des panels citoyens, c'est bien pour qu'il y ait une certaine ouverture, mais on voyait bien la logique qui était derrière cette idée d'organiser une démarche pseudo-participative. Alors là, c'était tout à fait assumé pour pouvoir légitimer une décision qui, en réalité, avait déjà été prise.
Bien, merci beaucoup Antoine Chalet pour ces premières explications, un premier débroussaillage, hein, si on peut dire, Gabriel. Je rappelle que vous êtes chercheur et enseignant de sciences politiques à l'Université de Lausanne, et puis on parlait aujourd'hui des premiers éclaircissements sur cette démarche participative. Merci beaucoup, très bonne soirée à vous. Et puis je vous rappelle que la semaine prochaine, nous continuerons à parler de cette thématique, comme durant tout le mois de septembre. Et puis, précisément, la semaine prochaine, nous recevrons Laurent Mattet, qui est géographe et qui a récemment publié un livre sur les démarches participatives en urbanisme, considéré avant tout comme la production d'un discours de légitimation de la rénovation urbaine. Je remercie également Gabriel pour la préparation de ce sujet.
Merci, à la semaine prochaine.